Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end de football sur les terrains, en tribune ou tranquillement installé chez vous devant votre téléviseur, dans un fauteuil, pourquoi pas, comme Monaco, indétrônable en Ligue 1, 30e journée, nouvelle victoire très confortable de l'ASM hier face à Caen. Et comme pratiquement chaque lundi, nous dirons tout le bien que nous pensons de la pépite du club de la Principauté, le nouvel appelé en équipe de France, Kylian Mbappé. Bien sûr, et comme pratiquement chaque lundi, nous nous demanderons si le PSG peut encore espérer déloger le leader monégasque, le club parisien, qui lui est plutôt en convalescence à la maison. Le chemin de la guérison est encore long après la rouste du Camp Nou. Mais grâce à Pastore, les hommes d'Unai Emery avancent pas à pas. Victoire face à Lyon au Parc hier. En Espagne, il y en a un qui s'amuse sur les pelouses de Liga et qui, de temps en temps, reste sur son canapé, également devant sa télé, pour regarder jouer l'équipe de France. C'est Karim Benzema. Benzema décisif avec le Real ce week-end après avoir de nouveau été ignoré par Didier Deschamps. Alors on ne sait si la réélection de Noël Le Graët à la tête de la Fédération Française arrangera ses affaires. Noël Le Graët réélu dans un fauteuil lui aussi ce week-end. Pour lui, pas question de laisser sa place comme d'autres dirigeants en Afrique au hasard. Avec nous aujourd'hui, des amis justement. On est chez nous tranquillement assis sur notre canapé justement avec Naïm Moniol. Bonjour Naïm.
Salut Hugo, salut à tous.
Chérif Guémour, bonjour Chérif.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Et Gilles Verdez, salut Gilles.
Bonjour.
Radio Foot, c'est parti.
Corner de Valbuena, coupé par Raphaël. Et au deuxième poteau, Essoulé, Alexandre Lacazette en profite pour ouvrir le score. Javier Pastore, ligne 2 avec Di Maria. Et trouve Rabiot au deuxième poteau. Un but partout à la 34e minute. Javier Pastore pour Draxler. 2-1, troisième réalisation pour l'Allemand.
On vous parle de Monaco dans quelques instants, mais d'abord, place au Dauphin. Vous l'avez entendu, le PSG, qui était de retour au Parc pour la première fois depuis l'humiliation subie face au Barça en Ligue des Champions. Et au final, ça fait un succès 2-1 face à Lyon, 4e de Ligue 1. Tout de même, grâce à, vous l'avez entendu, Rabiot et Draxler en fin de période, grâce surtout à Pastore, double passeur décisif. Tous ces joueurs ont répondu à Lacazette, auteur de l'ouverture du score. À la 6e minute, après 30 journées, le PSG est deuxième au classement. 3 points derrière Monaco. Alors d'abord, je voudrais qu'on parle du public. On a entendu donner de la voix plus de 47 000 spectateurs hier au Parc des Princes, des chants, des encouragements. Les supporters semblent avoir pardonné à leurs joueurs le naufrage du Camp Nou. C'est plutôt sympa ça, Gilles.
Oui, ils avaient été bien coachés, briefés par la direction. Donc ça avait fonctionné.
Applaudissez.
Ça manquait un peu de spontanéité.
Pour une fois que le Qatar, en termes de communication, réussit quelque chose. Bon, voilà, là c'était réussi. C'était un peu nécessaire parce que sinon, on connaît le public parisien, très chaud, flamboyant, mais aussi capable de coup d'éclat inverse, c'est-à-dire de siffler son équipe. Donc là, ils avaient été recadrés, ça a fonctionné. Bon, néanmoins, le dépit amoureux est là. Voilà, à la fois sur le terrain et hors du terrain, le traumatisme de Barcelone n'est pas dissipé.
Chérif, vous êtes
d'accord? Oui, on parle des supporters. Faut évidemment rendre plutôt hommage aux vrais supporters du PSG, ceux qui sont venus, ceux qui animent un peu l'animation dans les tribunes. Je pense pas que les supporters de fraîche date qui se sont abonnés au PSG
quand les millions ont commencé à affluer,
pour assister à ce que j'appellerais le spectacle des puissants, je pense pas que ces gens-là ils soutiennent particulièrement leur club. Enfin voilà quoi, c'est hommage aux vrais supporters qui sont toujours là, qui étaient là avant, qui sont revenus là récemment et qui seront encore là dans 5 ans, dans 10 ans, que plutôt les autres attirés par les millions, les lumières et puis par la victoire.
Mais parce qu'on rappelle qu'il y a eu un processus de retour des ultras qui avait été un peu mis de côté. On en a longuement parlé
ici. Parce qu'il y a bien du public, faut pas s'y tromper.
Naïm, il y a du public, on l'a entendu donner de la voix. Naïm, ça montre quand même, ce public un peu présent, que l'ambiance n'est pas encore trop délétère au PSG après la rouste historique du Camp Nou.
Alors évidemment, la rouste au Camp Nou, elle est indélébile, elle marquera le club pour toujours, hein, moi je le dis clairement. Après, il reste quand même 3 titres à gagner cette année, le championnat, les 2 coupes, ce qui fait une saison finalement pas trop moche, même si on est en dessous les résultats. Lyon aussi, c'était quand même une affiche qui donnait envie de venir. Je pense que si...
Et justement, ils ont envoyé un bon signal d'un point de vue sportif, les joueurs.
Bah oui, parce que c'est la première fois que Paris bat une équipe du top 5 cette saison au Parc. Il a fallu attendre la 30e journée, pratiquement la fin mars. Donc oui, ça a été un très bon signal. Après, on va pas se mentir, hein, si votre prochaine question, c'est de savoir si Paris a guéri. Non, Paris est convalescent.
Au moins, est-ce que Paris a été bon?
Non. Non. Paris n'a pas été bon.
C'est catégorique.
Non, franchement, non, je les ai pas trouvés bons. Non, franchement, je les ai pas trouvés bons.
Quand ils ont
On va laisser vous répondre. Allez, argumentez puis on.
Tout simplement parce que d'abord, c'est pour moi, c'est Lyon qui a perdu ce match. C'est pas Paris qui a gagné. Lyon a fait 20 premières minutes de très grande qualité et surtout très intelligente en mettant une grosse pression sur Verratti et Pastore. Et puis après, alors on va me dire, oui, mais ils ont joué il y a 3 jours, ils sont fatigués, machin. Même si une partie des joueurs n'avait pas joué le match de la Roma. Derrière, ils ont desserré l'étreinte. Ils ont pris 2 buts grâce à Pastore. Et puis en deuxième mi-temps, Paris a finalement joué le même jeu que Lyon, c'est-à-dire de la gestion. Ils ne sont pas cherchés à enfoncer le clou. Bon, ils n'ont pas été non plus mis en difficulté par Lyon, mais moi je ne les ai pas trouvés terribles du tout dans le jeu. On était en droit d'attendre beaucoup plus d'une équipe qui est quand même deuxième et qui a besoin de gagner le titre et de marquer des buts.
Mais une équipe en convalescence. Gilles, vous les avez trouvés comment, vous, les Parisiens?
Je les ai trouvés régalés par Pastore et par les intermittences, les fulgurances de Pastore. Quand je dis intermittence, c'est pas sur ce match, mais on sait que quand Pastore est à ce niveau-là, il donne quelque chose en plus, il a une palette technique spéciale. Le problème, c'est qu'Emery, on avait fait le dépositaire du jeu, et que Pastore, il fait 10 matchs par saison quand tout va bien.
Parce qu'il est blessé.
Parce qu'il est tout le temps blessé, et qu'il est très fragile, donc intermittent. Mais quand il est là, il régale. Et je suis d'accord avec l'analyse, Paris a bien débuté, mais la deuxième mi-temps a été extrêmement décevante des deux côtés.
Affligeante.
Shérif. Non. Vous les défendre, vous, les Parisiens, non?
Quand on
pas d'accord avec Naïm.
Non, mais c'est pas ça. C'est quand on mène 2-1 à la mi-temps, on a juste besoin d'assurer et de gérer. Ils l'ont parfaitement fait. Ça veut dire qu'ils ont une maîtrise. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils se sont pas énervés. Ils ont pris un but. Et bon, ils étaient un peu en difficulté au départ, comme tu dis, Naïm, parce qu'ils étaient pressés assez haut. Et ce qui s'est passé, c'est que progressivement, sans paniquer, ils ont repris leur marche vers l'avant. Et c'est pas que la fatigue, là je suis d'accord avec toi, c'est pas la fatigue qui a fait reculer Lyon, mais c'est aussi qu'ils étaient débordés, ça arrivait de tous les côtés. Par exemple, moi j'ai bien apprécié, moi, c'est les montées alternatives à la fois de Thiago Silva et de notre ami Marquinhos qui venait apporter le surnombre en attaque. Donc c'est vraiment pour faire la différence. Ils ont fait la différence, ils ont marqué 2 buts, ensuite ils ont tiré le rideau.
Ouais. 0 tir cadré du PSG en deuxième mi-temps.
S'en moque.
Ouais, on s'en moque, mais bon, c'est quand même pas révélateur d'une équipe qui en surnombre devant, quoi.
Non, mais ils s'en moquent. Après, il y a eu des occasions. Ils font pression sur le Lyon. Lyon n'a pas été dangereux non plus, et ça suffit.
Oui, c'est sûr.
Allez, un dernier mot sur.
C'est pas terrible, je suis d'accord avec toi.
Le contenu de ce match, Gilles Verdez.
À noter le match très correct d'Aurier, qu'on avait à juste titre beaucoup taillé.
Après son entrée un peu comique et très longue, surtout à Lorient.
Piètre prestation. Et puis, ce système en 4-2-3-1, qui fonctionne bien, mais par intermittence, ce qui dépend de Pastore. Et juste, moi je vois énormément de regrets au fil des jours, hein, plutôt que de considérer que le PSG est guéri, c'est le regret que Pastore soit pas entré en jeu à Barcelone. Et ça c'est une énorme...
Je vais même erreur tactique et technique.
Alors,
je vais me prolonger ce que tu dis.
Sans trop revenir en arrière.
Je vais pas parler de Barcelone. Quand on parle des regrets de Pastore sur le fait qu'il n'ait pas joué de Barcelone, je pense qu'Emery l'a compris, j'espère en tout cas, que les objectifs du Paris Saint-Germain en fin de saison ne passeront que par Pastore.
C'est exactement ce que j'allais vous demander. Justement.
Si tu veux passer devant Monaco...
C'est un 4-2-3-1 avec les clés du jeu pour Pastore.
C'est absolument la recette d'une Pastore, et dans la mesure du possible, Verratti derrière lui, parce qu'on parle des blessures de Pastore. C'est vrai que Verratti est quand même beaucoup blessé depuis la fin de saison dernière. Et il a aussi une hygiène de vie qui apparemment lui permet pas d'enchaîner comme ça, de faire des séries. Pastore, dépositaire du jeu du Paris Saint-Germain, ça veut dire avoir probablement le meilleur technicien avec Bernardo Silva du championnat dans son équipe, un joueur capable de marquer des buts, d'être bon sur coup de pied arrêté, de faire des passes, de créer des décalages. Si Paris veut passer devant Monaco et gagner les deux coupes, ça passera exclusivement par une titularisation de Pastore.
Parce qu'il faut quand même rappeler ce fait qui est quand même... On parle beaucoup du rythme effréné de Monaco, à raison, mais Paris n'a que 3 points de retard sur l'ASM.
Et moins bonne différence de but. Hein.
Moins bonne ça différence de but. Donc ça fait virtuellement 4 points. Paris, prochain match du PSG, c'est la finale de la Coupe de la Ligue face à Monaco, justement. Est-ce que c'est l'occasion de frapper un coup...
pour les deux équipes.
Psychologiquement, on va dire.
Mais pour les deux
et
équipes.
De lancer un sprint qui est encore loin d'être perdu mathématiquement.
Mais c'est pour les deux équipes, c'est pas que pour le PSG, qu'on voit a priori...
Là, on parle du PSG.
pression est sur Paris.
Non, 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 mais ça va être une échéance très, 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 très importante et qui est pas du tout acquise pour Paris tel qu'on aurait pu le penser il y a encore un mois. On les voyait un peu dans le triplé national plus une bonne participation en Ligue des Champions. Mais juste pour préciser ce que disait Ney, alors on va rester sur le PSG, évidemment, Pastore. Mais Pastore, faut pas oublier qu'au départ, c'était lui, le dépositaire du jeu, tel que l'avait voulu Emery. Mais bon, à cause des blessures, il a pas pu être titularisé. C'est juste, il n'a pas été, il n'est pas entré en jeu, contre le Barça. Mais au départ, il devait figurer. Donc, c'est juste, cette erreur qu'on peut éventuellement, imputer à Emery. Mais sinon, après, pour le reste, c'est Pastore et Verratti.
Allez, on enchaîne, on laisse là le PSG, on va parler maintenant du leader, le leader Monaco.
L'attaque est animée par Valère Germain et Kylian Mbappé, les deux hommes combinent et Mbappé, deuxième réalisation pour Kylian Mbappé. Penalty pour les Monégasques. 2-0 pour l'ASM. Kylian Mbappé pour le 3-0 à 10 minutes de la fin.
Aujourd'hui, j'arrive à faire ce que je sais faire, mais je dirais pas que c'est extraordinaire, parce qu'extraordinaire, c'est des joueurs qui mettent 60 buts et il n'y en a pas beaucoup. Donc je dirais pas que c'est extraordinaire, je dirais que je suis dans une bonne phase.
Bon, il a à peine plus de 18 ans, il en est à 11 buts sur ses 7 dernières titularisations. Je ne vais pas vous égrener toutes les statistiques de Kylian Mbappé, on en parle ici tous les lundis. Ce n'est pas extraordinaire, nous dit-il. Ok, c'est banal, pas de problème, c'est banal comme une victoire 3-0 de Monaco. Alors, je vous signale quand même que Kylian Mbappé, ses deux buts au 13e et 81e minute ce week-end à Caen, et un pénalty obtenu, transformé par Fabinho à la 49e. L'ASM est-elle insubmersible? Encore plus avec un Kylian Mbappé aux avant-postes, Gilles.
Oui, c'est le joyau. Alors, il faut faire attention. Vous savez, on dit le nouveau Henry. Moi, je me souviens, j'avais lancé le nouveau Zidane pour le pauvre Mourad Meghni quand il était jeune. On a vu la carrière qu'il a fait. Donc, des nouveaux Zidane, des nouveaux Henry, il y en a eu plein. Peu ont confirmé, mais lui quand même, il est bien entouré, il est solide, il marque, il a l'air de gérer bien sa dynamique de carrière. C'est un joueur très intéressant. Il a l'air bien entraîné par Jardim. Donc voilà, c'est une promesse. D'ailleurs, Deschamps s'y est pas trompé. C'est une promesse fulgurante du football français. Il faut juste faire attention, nous les premiers, mais bon, on s'enflamme tout de suite, c'est normal, à lui bâtir un avenir et à pas le brûler immédiatement.
C'est le meilleur buteur toute compétition confondue parmi les joueurs des 5 grands championnats. Depuis le 1er février, devant Messi et Lewandowski. Alors, peut-être, c'est une courte période, hein, Messi et Lewandowski, ils ont prouvé depuis bien plus longtemps, mais quand même.
C'est un garçon qui est complet. C'est ça qui est assez impressionant, c'est que pied droit, pied gauche de la tête. Il peut jouer dans
l'axe,
il peut jouer sur
un côté. On l'a vu, là, contre Caen. Premier but du pied gauche après un crochet et un but de la tête.
Il sait faire jouer les autres. Voilà. Alors après, faut être prudent, Gilles a raison. Faut voir que, là, aujourd'hui, il est très bon dans une équipe qui est très bonne. Mais si à l'intersaison vous avez 3-4 joueurs qui partent et que Monaco baisse le pied, qu'on retrouve le Monaco d'il y a 2 ans, est-ce qu'Mbappé aura le même rendement? Ça, il faut regarder comment il va digérer sa carrière internationale. Il va être sélectionné là, il est sélectionné prochainement. Est-ce qu'il sera capable, on parlera peut-être de Fekir après avec Lyon, mais est-ce qu'il sera capable, si un jour il y a une blessure, de retrouver son niveau? Il y a tout ça, il y a plein d'interrogations sur ce joueur. Aujourd'hui, c'est un phénomène. Et heureusement qu'il a ce niveau phénoménal, parce que progressivement, on a quand même oublié un truc, c'est que Monaco a perdu son banc de touche. Carillo Boccia out, Falcao qui recommence à être blessé régulièrement, qui rate des matchs importants dans le Money Time. Aujourd'hui, il incarne quasiment à lui tout seul l'attaque de Monaco avec Germain. Sinon, après, c'est Dirard, c'est le petit Cordona, c'est quand même plus vraiment la même donne qu'il y a quelques semaines. Donc, heureusement quand même que Monaco a un phénomène comme ça.
Vous êtes inquiet pour Monaco, Mbappé, cette dynamique, elle va se poursuivre, elle peut se poursuivre à ce rythme-là, c'est quand même très impressionnant. Il y a la Ligue des Champions.
C'est pas des inquiétudes, c'est des interrogations pour l'avenir. C'est-à-dire que Mbappé, c'est un peu de la petite merveille. C'est un peu toujours un peu pareil dans tous les pays du monde. Il y a toujours une petite merveille qui débarque du jour au lendemain. On la connaît pas. On sait pas comment le prendre au départ. Et après, la saison d'après, il faut confirmer. Il y a moins d'espace. Il va être plus marqué,
là,
plus
surveillé. Mais au moins pour ce sprint final-là, il reste 8 journées en championnat.
Oui, non, c'est là.
On va les arrêter. Quelqu'un va les arrêter. Le PSG va les arrêter.
C'est deux équipes qui se valent. Il n'y a que 3 points d'écart, 3 plus 1.
Parce que Monaco qui peut arrêter Monaco.
Oui, parce que ça, c'est intéressant. Vous dites, c'est deux équipes qui se valent. Vous êtes d'accord? Monaco n'est pas au-dessus des autres?
Si, pour moi, dans le jeu, Monaco est au-dessus des autres. Maintenant, Monaco, il va y avoir l'obsession Ligue des Champions. C'est pour ça que pour moi, la Coupe de la Ligue, elle est fondamentale pour le PSG, mais totalement secondaire pour Monaco. Monaco, c'est Dortmund, et puis plus si affinité. Donc il y a cette obsession-là.
Oui,
et
vrai.
Pour revenir à Mbappé, moi, une des interrogations, c'est sur son avenir à court terme. Est-ce qu'il va rester au moins jusqu'à la Coupe du Monde, ce qu'il devrait faire à mon avis, ou est-ce qu'il va tout de suite céder aux sirènes des très grands qui vont vouloir se l'arracher?
Façon Anthony Martial.
Exactement, mais façon Martial. Et Martial, il a quand même du mal à confirmer.
Voilà, Martial aujourd'hui, c'est pas un exemple à prendre pour Mbappé, puisqu'on a vu qu'il a fait des débuts tonitruants à Manchester, mais que derrière ça s'est étiolé. Aujourd'hui, c'est quand même un garçon qui est très loin du prix de son transfert. C'est un argument.
On n'en est pas là, mais si un club arrive avec son million, c'est pas Mbappé qui va décider.
Je pense, tu vois, que Monaco peut, pour le coup, avec ce joueur-là, mettre un veto, ce qu'il ne ferait pas avec un autre.
Sauf que Naïm, Monaco, on l'aime, mais on le quitte. S'il y a un très très grand d'Europe qui vient à la porte de Mbappé.
Sauf que Monaco aujourd'hui a les moyens de faire mettre Mbappé dans des conditions financières et sportives de premier plan, et c'est plus comme il y a 2-3 ans.
Alors justement, on va élargir. On va pas parler que de Kylian Mbappé. On va parler de Monaco. Monaco. On parlait de la Ligue des Champions, de la difficulté de cumuler Ligue des Champions et championnat. Monaco a remporté chacun de ses 8 matchs de Ligue 1 ayant eu lieu après une de ses rencontres de Ligue des Champions cette saison, dont 7 par au moins 3 buts d'écart. Ça a l'air d'être assez simple de passer de l'un à l'autre pour eux cette saison. Bon, là, il y a le Borussia Dortmund qui arrive. C'est peut-être un autre client, vous allez me dire.
Ça c'est les statistiques. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'ils maintiennent une dynamique. Mais pour en venir à ce que dit Naïm, c'est que d'abord c'est une super équipe qui va de l'avant. Il est très très bien entouré, aussi bien derrière, devant, à droite, à gauche. Par exemple, il faudrait qu'on parle aussi de la complémentarité qu'il a avec Falcao, qui joue beaucoup pour lui, et puis Valère Germain, comme on voit le premier but qu'il marque hier en 1-2, il est vraiment très très bien soutenu. Donc il a carte blanche pour faire à peu près ce qu'il veut devant. Mais une fois de plus, c'est cette année, on le découvre, c'est toujours comme ça quand on a un phénomène. J'aimerais bien voir comment il va réagir.
La saison de la confirmation, bien sûr.
Voilà, c'est ça. C'est quand il y aura moins d'espace, quand il aura deux gars sur lui, quand il y aura une attaque un peu moins faible.
Lui a moins joué que les autres. Monaco a commencé sa saison au mois de juillet. C'est une équipe qui a pratiquement un mois et demi.
Depuis fin
janvier, début février. Donc il a quand même moins de compétition que les autres. Et là où ça va être intéressant pour Monaco, c'est comment Jardim va gérer les physiques dans le Money Time. Le banc de touche s'est étiolé. C'est une équipe qui a un mois et demi de compétition de plus que le Paris Saint-Germain, par exemple. Donc voilà, les succès de Monaco, la clé des succès de Monaco passe aussi par la gestion des hommes d'un point de vue du temps de jeu.
Allez, Gilles.
Simplement pour revenir sur votre stat là, des victoires tonitruantes de Monaco après les matchs de Ligue des Champions. Oui, Monaco est très fort. Oui, Paris est très fort aussi, avec la restriction barcelonaise et ses limites. Mais quand même, de mon point de vue, la Ligue 1 est tellement faible que c'est facile de gagner 8 fois après les matchs de Ligue des Champions. Monaco a marqué 87 buts en 30 matchs, presque 3 par match. La Ligue 1 avant, c'était la sécurité défensive.
Même le PSG ne le faisait pas.
Mais c'est la faiblesse des autres. Il n'y a même plus de sécurité défensive.
Non, moi je suis pas d'accord avec ça.
Attendez, on l'a vu contre Barcelone.
Vous préférez qu'il y ait plein de 0-0, ça vous rassure sur le niveau de la Ligue 1?
Mais non, mais la Ligue 1 est de plus en plus faible défensivement, ça devient n'importe quoi.
S'il te plaît, 87 buts avec qui? Avec un gamin de 19 ans, Valère Germain, qui était un deuxième couteau notamment à Monaco.
Oui, ce qui est lui, sa faiblesse des autres.
Falcao qui revient de blessure. Une équipe comme le Paris Saint-Germain, qui a un budget de 600 millions, elle l'a pas mis. Regarde l'attaque de Lyon, qui est sur le papier meilleure que celle de Monaco. Ils les mettent pas, les 87 buts. Faut aussi du talent. C'est bien de dire oui, mais la Ligue 1 c'est faible.
La Ligue 1 c'est
quand
année,
tu joues
d'une faiblesse.
Quand tu joues, t'as 14 équipes sur 20 qui te mettent le bus en Ligue 1 quand ils jouent Paris et Monaco. Il faut les mettre aussi, les buts. C'est bien dire la Ligue 1 est faible. Oui, la Ligue 1 est faible parce que, d'un point de vue du niveau, on se régale pas.
Mais
quand
débat,
tu joues Paris et Monaco, t'as des équipes qui bétonnent, mettre 87 buts face à des équipes.
On a déjà eu et qu'on aura.
Mais non, mais
les 10 années à venir.
Pendant les années à venir. Juste un mot, un seul oui, non, Monaco face au Borussia Dortmund, ça va le faire, Chérif?
Oui.
Non.
Non, ça va pas le faire, Naïm? Oui, il y a beaucoup de... Un vent d'optimisme souffle sur ce plateau. Un mot simplement de Nice. Je vous indique, Nice a enchaîné un deuxième nul d'affilée. Match nul à partout. À Nantes, ça fait plaisir à notre réalisateur Guillaume Ploquin, qui est un canari patenté. Jean-Michel Seri, l'Ivoirien, a répondu à Emiliano Sala. Nice, troisième, 4 points de retard sur le PSG. 7 de moins que Monaco. 14 points d'avance sur l'OL, le quatrième également.
Tout va bien pour Nice.
Ça s'annonce une fin de saison un peu en roue libre, on va dire.
Tout va bien,
poliment pour Nice, troisième.
L'occasion de préparer la saison prochaine.
Bon, c'est déjà exceptionnel pour les Aiglons. On se retrouve dans 3 minutes, nous, après les informations dans Radio Foot.
Aujourd'hui, 20 mars, RFI met...
Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Radio Foot, bienvenue si vous nous rejoignez pour le coup d'envoi de la seconde période avec Gilles Verdez, Chérif Guémour, Naïm Ognol, Naïm et Chérif qui poursuivaient les débats de la première partie. Il a fallu les calmer pour qu'on puisse
reconfigurer l'équipe de Monaco.
Vous reconfigureriez l'équipe de Monaco. Bah, dès que Jardim s'en va, on dit aux Russes de vous appeler, vous prendrez sa place sur le banc. Alejandro Valente, LRFA, nous a rejoint. Bonjour Alejandro.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Avec vous, on va filer en Espagne. Ça vous plaît, ça? Alejandro, on va prendre des nouvelles de Karim Benzema.
Je suis très fier de rentrer dans l'histoire de ce club. Pour moi, c'est le meilleur du monde. Ça fait longtemps que je suis au Real Madrid et là, je suis à mon top niveau. Pourvu que ça dure et que je continue à marquer des buts.
Et bien on s'intéresse à lui parce que son sélectionneur, lui, continue de l'ignorer. Hein. Mise en cause dans l'affaire du chantage à la vidéo intime de Mathieu Valbuena depuis fin 2015. Il n'est plus en équipe de France, Benzema, mais il s'est montré à son aise ce week-end avec le Real Madrid en inscrivant le 8e but de sa saison en Liga. Son 119e en tout dans le championnat espagnol avec le maillot de la Maison Blanche. Le premier du succès 2-1 de son club sur la pelouse de l'Athletic Bilbao à l'occasion de la 28e journée. Je précise hein, simplement que le Real domine toujours la Liga avec 2 points d'avance sur le Barça. 119 buts en Liga, c'est simple, il entre dans le top 10 des meilleurs buteurs du Real Madrid dans le championnat espagnol. C'est quand même pas mal pour Benzema qui en plus a été très bon dans le jeu, vous confirmez Alejandro?
Oui, et il faut rappeler quand même que Benzema il y a quelques semaines encore était devenu à nouveau la bête noire du public des Bernabeu qui ne l'aime pas beaucoup, il faut bien le dire.
Il est en concurrence avec un enfant du pays en même temps.
Il est en concurrence avec un enfant du pays, alors que à Madrid, on dit quand même que c'est le socio idéal pour Cristiano Ronaldo. Et c'est vrai que les deux hommes s'entendent à merveille, et c'est ce qui explique aussi sa longévité au Real Madrid, malgré sa relative impopularité.
Parce qu'on a essayé de lui mettre dans les pattes donc Alvaro Morata.
Relative impopularité.
Au club.
Il a apprécié Gonzalo Higuain aussi.
Chaque fois qu'il y a eu Higuain par le passé, chaque fois quand même que Benzema entre un peu plus dans l'histoire du football et du Real Madrid, on s'interroge sur son absence en équipe de France. Gilles, c'est forcément le débat qui va revenir à chaque fois. Il a que 29 ans, Benzema.
Oui. Alors d'abord, pour revenir sur l'Espagne, c'est vrai qu'il se nourrit de la concurrence. Plus il a de la concurrence, plus il a terrasse, meilleur il est. Et c'est vrai que, comme le disait le chef, la complicité qu'il a avec Cristiano Ronaldo, qui vient aussi du fait qu'il se soit tout de suite mis au service de Cristiano Ronaldo, ça l'aide à rester. Ensuite, sur l'équipe de France, moi, c'est le point de désaccord majeur que j'ai avec Didier Deschamps. J'aime beaucoup Deschamps, mais là, je comprends pas pourquoi Benzema reste boycotté. Au nom de quoi exactement? On voit bien que les mises en examen en France, ça n'empêche en général pas grand-chose dans toutes les disciplines, dans tous les domaines. Donc,
dans
je comprends pas.
Notamment.
Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre.
C'est l'image du public. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Gilles sur l'absence de Benzema.
La politique, c'est après. Hein, je crois
ça ne peut pas. Ça ne peut pas être. Compte tenu de son rendement sportif, parce que même s'il fait une saison moins prolifique que les précédentes, ça reste quand même un joueur majeur du Real Madrid, et quoi qu'on en dise, le meilleur attaquant français. Même s'il ne l'a jamais montré en équipe de France, c'est lui qui a le plus gros talent, le plus gros potentiel.
Est-ce qu'on confirme, il fait une bonne saison, Benzema, 8 buts en Liga, c'est pas impressionnant en termes de
chiffres. Quand on dit Real Madrid, quand on dit Real Madrid 2017, Benzema est titulaire depuis pratiquement 8 ans, c'est bon, on n'a pas à se poser cette question. Il est titulaire.
Ou alors, il doit être en équipe de France.
Le plus grand club au monde.
Ou alors, il faut que Deschamps au moins nous explique pourquoi il l'appelle pas. C'est parce qu'il a eu des propos un peu déplacés.
Non, il y a quelque chose de cassé. À mon sens, avec Didier Deschamps, il y a quelque chose de cassé parce que ça allait beaucoup plus loin que l'affaire de l'Hextextep.
C'est cette déclaration Deschamps a cédé à une partie raciste de la France.
Non, puis après, il y a le graffiti sur le mur et tout ça. Après, ça s'est étendu à la famille de Didier Deschamps, sa résidence secondaire et tout ça. Donc, ça a pris des proportions très, très graves dans l'esprit de Didier Deschamps. Ensuite, en tant que sélectionneur, moi je trouve qu'il n'a pas non plus à s'expliquer sur ce non-choix. C'est le sélectionneur qui fait ses choix en fonction du groupe, de la vie de groupe, de ses objectifs sportifs.
En l'occurrence, il n'a pas
à se justifier en tant que sélectionneur. Je crois qu'il y a quelque chose de cassé. Maintenant, dernière exception, on connaît la mentalité de Didier Deschamps. Si demain, il y a une épidémie de choléra qui frappe tous les attaquants français, il le rappellera. Parce que c'est pas quelqu'un.
Suffisamment
pragmatique. C'est pas quelqu'un, de 100% obtus. Mais là, au jour d'aujourd'hui, Benzema, c'est mort pour l'équipe de France, ad vitam aeternam.
Sauf qu'en l'occurrence, il a pas justifié, mais on sait que c'est pas des critères sportifs. c'est pas des critères sportifs. Et quand
fait
on dit s'il le rappelle qu'il y a une épidémie de choléra, ça veut
Donc
dire
tous
que
les attaquants hein.
dans la hiérarchie, il serait 6 ou 7e. C'est le meilleur, c'est le numéro 1, c'est meilleur que Griezmann. Benzema, c'est meilleur que Griezmann.
Mais c'est le sélectionneur qui
fait ses choix. Oui, et c'est une histoire d'image. Deschamps ne veut pas redonner au public des billes pour siffler les bleus, pour le désamour, machin. C'est une histoire d'image. Non, c'est une histoire d'image, c'est sûr et certain. Et la déclaration de Benzema, elle a peut-être fait mal à Deschamps, mais si elle a fait aussi mal à Deschamps, c'est peut-être qu'elle n'était pas totalement.
Allez, le dernier mot sur Benzema, Gilles.
Il y a tout un ensemble, mais quand on voit que Giroud est appelé alors qu'il est même plus deuxième, ensemble d'attaquants
très loin
de son club, c'est quand même particulier.
Et Gamero, mais il revient de blessure, il n'a pas le niveau aujourd'hui.
Oui, mais bon, et d'autre part, à mon avis, c'est vrai que Deschamps a une personnalité très forte et il adorait Benzema et Noël Le Graët aussi. Il l'adorait. Et effectivement, je suis d'accord avec Chérif, il y a quelque chose qui est rompu maintenant, un contrat de confiance qui est rompu. Je crois pas que Deschamps soit sensible au public, mais c'est à l'intérieur du groupe. Ouais. Il se demande, il sait que sportivement, il y a un apport majeur, mais il se demande s'il y aurait pas des relations complexes au sein du groupe.
Et Naïm parlait de Gamero. La transition est toute trouvée. Je suis désolé, Chérif, faut qu'on avance puisque Deschamps à Benzema, il préfère les GG de l'Atlético de Madrid, Gamero, Griezmann. Griezmann qui est de retour en forme, buteur face au FC Séville, victoire des Colchoneros 3-1. Ils sont quatrième et reviennent à 2 points de leur adversaire du jour. Gamero a touché la barre d'un lob qui aurait peut-être mérité mieux. Griezmann, je vous le disais, de retour en forme hein, depuis le 1er janvier, 13 buts en 19 matchs. 5 buts lors de ses 4 derniers matchs de Liga. Il avait vécu un deuxième semestre 2016 plus compliqué, il avait en même temps beaucoup donné
les mois
précédents, il y avait aussi ses finales Ligue des Champions Euro perdues. Griezmann, Gamero, ça vous inspire quoi? Ils sont en forme et ils méritent d'être au sommet de la hiérarchie des attaquants du football français. Griezmann, oui.
Quand on parle de cohérence, au moins il y a une cohérence au sportif. C'est deux attaquants qui jouent vraiment bien, très bien, voire à l'Atlético Madrid, ils sont titulaires, ils s'entendent bien, donc il n'y a pas de raison de pas les appeler. Au moins, là, ça devient cohérent. Si on prend pas Benzema, qui est le meilleur attaquant, prenons au moins la paire.
Mais il y a deux questions, chef. C'est-à-dire qu'il y a la question donc du individuel, la Griezmann, on sait. Gamero, on peut peut-être déjà se poser la question.
Non, Gamero, là, aujourd'hui, il revient de blessure.
Par contre, voilà.
Sur cette sélection, on va dire qu'il n'est pas indispensable. Après, globalement, en termes de niveau, Gamero, à le niveau international, sans problème.
Mais et la complémentarité, c'est le principal pour d'autres attaquants qui frappera la porte derrière.
Non, mais ça c'est normal. Mais énormément d'équipes fonctionnent en binôme avec des complémentarités, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, des charnières centrales. Moi, c'est pas injuste de dire on sélectionne Gamero parce qu'il est très fort avec Griezmann, parce que si les deux ensemble, ça te met 2-3 buts et que c'est le très haut niveau international, il faut les prendre. Il y a plein d'équipes dans plein de secteurs de jeu où ça fonctionne par paire, par binôme, par trinôme, parfois au milieu de terrain. Non, moi ça me paraît normal.
Gamero, Griezmann, Alejandro,
je pense que hier, quand même, ils sont.
On en pense quoi en Espagne de ce duo d'attaquants?
C'est un duo qui marche bien. C'est, évidemment, c'est Griezmann qui attire toute la lumière parce que c'est lui le véritable phénomène dans cette équipe de l'Atlético Madrid qui avait connu une période un peu compliquée dans la saison et qui aujourd'hui revient très bien. Ils ont eu un tirage au sort favorable en Ligue des Champions. Ils vont jouer Leicester, ce qui est pas dans leurs habitudes. En général, ils prennent toujours le pire. Là, au moins, ils sont favorisés. Ils sont toujours en course, peut-être pas pour le titre en Espagne, mais au moins pour le podium.
En tout cas, les courbes sont un peu inversées avec Séville. Hein. Séville reste sur 4 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, notamment une élimination face à Leicester. Et l'Atlético vient d'enchaîner 5 rencontres sans défaite. Gilles.
Dans le rôle du duo, Gamero, c'est Benzema et Griezmann, c'est Cristiano Ronaldo.
Donc, c'est
Gamero
l'attaquant de pointe qui est au service de celui qui est derrière lui.
Il a parfaitement compris, Gamero, que pour réussir dans ce club-là, il fallait se mettre au service de Griezmann. Ce qu'il fait en gardant sa carte, mais c'est vrai que je suis assez d'accord. C'est la force de ce duo-là qui fait que Deschamps les sélectionne. Ceci dit, là, c'est le temps des essais. Hein. Il a appelé des jeunes. C'est bon moment pour faire jouer des jeunes.
Les derniers essais avant la dernière ligne droite.
Il y a aussi les limites de cette entente et le revers de la médaille de cette entente, c'est que l'équipe de France, autre chose, mais concernant l'Atlético Madrid, si ne serait-ce que Griezmann n'est plus en forme, l'Atlético ne gagne plus. On l'a vu cette saison. Hein. Les bonnes périodes de l'Atlético et les séries de l'Atlético, ça correspond aux bonnes séries de Griezmann. Quand il a un coup de moins bien, l'équipe marque plus.
On lui en demande trop à Griezmann.
Non, mais
on a eu l'impression qu'à un moment donné, c'était peut-être
Gamero,
un petit peu dur à supporter.
Griezmann à l'Atlético, c'est comme la chanson du Gaufré, le petit cheval blanc, on l'a tous derrière et lui devant. C'est lui.
Brassens.
Voilà. Non, c'est Gaufré, je crois.
Brassens, bref.
A priori, c'est Brassens.
Je vous crois sur parole, mais c'est surtout qu'il n'a pas réellement de de soutien. Ferreira Carrasco, c'est pas le même poste. Il a pas un joueur aujourd'hui capable derrière d'avoir le même niveau. On parle du Real Madrid. Bon, vous avez Cristiano Ronaldo, vous avez Bale, vous avez Benzema. Un cran dessous, vous avez quand même Ramos, Modric, des mecs capables de soutenir un certain niveau de jeu. À l'Atlético, si Griezmann est suspendu, Griezmann est blessé, Griezmann est moins bon, c'est tout l'Atlético qui est moins bon.
Mais pour revenir à l'équipe de France, ça a bien marché contre la Bulgarie.
Non, mais de toute façon, c'est logique d'avoir. Ouais. Quand l'année où Fekir et Lacazette marchaient sur l'eau, enquillaient les buts et passaient des, ils jouaient en équipe de France. On a beaucoup parlé du duo Trezeguet-Henry. C'est normal dans l'histoire du football, dans toutes les sélections.
Jamais été associé.
Quand vous avez un duo qui fonctionne bien en club, c'est normal de le prendre en sélection.
Alejandro, on va revenir juste sur la Liga quelques secondes. Donc l'Atlético, ça fonctionne assez bien pour eux et finalement, de manière assez inespérée, peut-être une fin de saison en boulet de canon.
En tout cas, ils peuvent même arbitrer un petit peu la lutte pour les titres puisqu'ils doivent aller dans quelques jours à Bernabéu. Donc
Et justement, cette lutte pour le titre, le Real, 2 points d'avance, un match en moins, une victoire à San Mamés, c'est quand même pas rien. C'est un signal envoyé.
C'était important, très important pour le Real de gagner ce match, d'autant qu'ils sont toujours un peu en difficulté à l'extérieur. Là, Bilbao a fait un beau match, ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Le Real a eu une réussite maximale. Et voilà, c'est Casemiro qui a marqué le but. Encore une fois, Ronaldo a un peu de mal à marquer, mais d'autres joueurs s'en chargent.
C'est plutôt bon signe, ça.
Mais c'est une équipe qui n'est pas toujours brillante, mais qui paraît indestructible. C'est-à-dire qu'il y a une soif, une volonté de gagner, un refus de la défaite qui est impressionnant. Le terme de compétiteur, c'est ça, quoi. Inculqué par Zidane avec des joueurs qui sont là pour gagner 2-1, 1-0 avec un but de plus. Ils sont souvent malmenés cette saison quand même. Il n'y a pas de marge, mais ils enchaînent les victoires.
Ils n'ont jamais doute. Ils ne doutent jamais.
Non, shérif.
Le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à faire le trou. Donc, ça va être serré jusqu'à la fin. Là, maintenant, mais c'est ce qu'a dit Zidane. De toute façon, ça va avec le Barça jusqu'à la dernière
serré journée. Jusqu'à la fin.
Sauf qu'ils auraient pu faire le trou. Rappelle-toi.
Oui, bien sûr. Mais
est-ce que vous voyez un petit avantage psychologique
C'est même pas ça. C'est
qu'aurait le Real en plus du Barça.
Le Barça prend trop de buts pour être champion. C'est le problème, on l'a encore vu contre Valence, ils ont tapé Valence très bien, Messi a marqué, il y a eu des buts, c'est parfait, mais c'est une équipe qui prend trop de buts.
Puis le grand avantage du Real, c'est qu'ils vont jouer contre leurs trois principaux adversaires à domicile. Là, donc le calendrier est plutôt favorable.
Le Real est plus solide derrière.
Donc si on devait faire un tour de table rapidement, tout le monde voit le Real champion.
Sauf accident, oui.
Oui, c'est quand même leur obsession cette année. Ils veulent retrouver le titre, alors que Barcelone avait son exploit.
Quand on parlait tout à l'heure, la musique de la Ligue des Champions retentit dans leurs oreilles.
Quand on parlait des victoires de Monaco après la Ligue des Champions, je pense que le Real a plus une équipe pour jouer sur deux tableaux que le Barça.
Mais le Barça, de toute façon, ne joue plus la Coupe d'Europe.
Le Barça joue sur trois tableaux.
Le Barça, de toute façon, à partir du moment où ils ont tapé Paris derrière, ils ont perdu contre la Corogne. Là, la double confrontation contre la Juve va faire très mal. Ils vont laisser des plumes, de l'énergie. Donc non, moi je pense que la Real, sauf accident, devrait être champion.
Bon, on suivra ça de toute manière à partir de la prochaine journée de Liga. La Liga, c'est comme la Ligue 1. Il y a une relâche pour cause de trêve internationale. Retour dans 15 jours à cette trêve internationale avec des rencontres de l'équipe de France. On les a évoquées, peut-être les préciser quels sont les adversaires des Bleus. Alors en éliminatoire du Mondial, il y aura le Luxembourg. Bon, et après en amical, ce sera nettement plus alléchant. Il y aura justement l'Espagne. Ça, ce sera à suivre le 28 mars. Alors ça ne vous a pas échappé, il y a des élections qui se profilent en France, des élections pour la présidentielle. Il y en a également dans le monde du football, qui n'est pas en reste.
Les législatives très, très importantes au mois de
juin. Les législatives très, très importantes, on y reviendra évidemment dans Radio Foot. On va d'abord parler des élections qui secouent le monde du football, et plutôt ce vent nouveau qui souffle, ce vent de fraîcheur qui souffle dans les instances footballistiques, pas partout. En France, on résiste, voilà. Mmh. Exactement, la 3F, la Fédération Française, repart pour 4 ans avec Noël Le Graët en poste depuis 2011. Il a 75 ans, il a été élu avec un peu moins de 60% des voix face à Jacques Rousselot, le président de Nancy qui devait lui succéder. Puis finalement, bon, la politique, c'est toujours un peu compliqué, hein, c'est fait de trahison. Noël Le Graët, dit comme ça, 75 ans, repart pour 4 ans, 71 ans, c'est pas forcément très encourageant. Il n'empêche, sportivement, son bilan, il est quand même plutôt bon. Il a récupéré l'équipe de France en lambeau, il l'a amené...
Sur deux bilans.
Sur trois bilans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est
le bilan financier, c'est-à-dire que
je précise juste, donc vice-finaliste, vice-champion d'Europe, plutôt,
et quart de finale en
2014 en Coupe du Monde.
Bah, il y a déjà le bilan sportif qui est très positif avec cette finale Il y a le côté business, c'est-à-dire qu'il a encore valorisé l'équipe de France, notamment par le maillot. Il y a encore des
contrats avec Nike.
Voilà. Donc ça, c'est de son 40, fait.
43 millions par an.
Et rétablissement.
Ils ont encore besoin que vous leur fassiez de la pub.
Rétablissement de l'image de l'équipe de France. Tout ça, c'est à mettre à son crédit. Puis il faut dire qu'en face, il y a personne. Il avait joué un peu à Volpone, c'est-à-dire je me retire, ça sera mon dernier mandat. Puis
en fait, il devait laisser sa place à Jacques Rousseau.
Voilà.
Et finalement,
c'est pas le premier à faire le coup. Et en fait, bon, il n'y avait pas grand monde en face, même si c'est moins la marge, elle est moins importante.
Mais était-il légitime pour empiler son bilan? Est-il trop bon pour le bouger?
Moi, je suis pas d'accord avec vous quand vous expliquez que c'est une sorte de surprise que Rousseau aurait pu gagner. Rousseau a dit qu'il aurait pu gagner, mais moi, je suis comme Chérif, j'ai jamais pensé une seconde qu'il avait la moindre chance, ni avec le football pro, il réclamait. Il pensait avoir plein de clubs en soutien. Je ne le croyais pas. Et le foot amateur plébiscite le Grède.
Mais est-ce que vous, à titre personnel,
moi, j'adore le
Grède.
Moi, j'adore le Grède. Et j'adore plus que j'adore d'abord le travail de Le Graët, la personnalité de Le Graët, je m'en cache pas, et c'est le binôme avec Deschamps qui m'intéresse.
Ouais, ça aussi,
si
ça jouait, ça.
Le Graët avait sauté, il est pas du tout sûr que Deschamps serait resté à plus long terme.
Puis il a fait une liste intelligente, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, s'enticher avec Jean-Michel Aulas, ça fait quand même pencher la balance, notamment au niveau des clubs professionnels. Aulas qui va se retrouver en charge de trouver
Aulas, le président de Lyon, je précise.
Et voilà, et de la formation, quand on voit le travail qu'il a fait à Lyon, c'est effectivement une très bonne nouvelle. Puis c'est peut-être aussi celui des quatre qui a fait la campagne la plus propre. Parce que quand on parle de Rousseau, que ce soit Rousseau, que ce soit Thomas, que ce soit Donadei, ils ont quand même sorti la sulfateuse 2-3 fois justement contre le Blatter, alors que lui a toujours été très propre, très serein. D'ailleurs,
contre le Graët.
D'ailleurs, il a rendu hommage à Rousseau dans son discours quand il a été élu. Voilà, ça a été le plus propre dans la campagne, et ça aussi, je pense que ça a beaucoup joué.
Dernière question pour préparer la Coupe du Monde 2018, c'était la meilleure solution de la continuité.
Oui. C'est la continuité, la meilleure solution.
Le même
président,
le même sélectionneur.
On verra.
Et c'est aussi la Coupe du Monde 2019 féminine. Que la France va organiser. Même si ça n'a pas de lien direct, préparer une candidature aux Jeux Olympiques avec un président de fédération aimé, respecté, efficace du sport le plus populaire du pays, c'est quand même une bonne chose. Donc non, pour le coup, ça a été un choix intelligent.
Alors, pas de changement à la 3F, du changement en revanche à la tête de la Fédération algérienne de football, Alejandro Kheredine Zetchi succède à Mohamed Raouraoui, et c'est un petit événement. Raouraoui en poste de 2001 à 2006, puis de 2009 à ces derniers jours. Donc c'est une vraie page qui se tourne.
C'est une vraie page qui se tourne. C'est une des plus importantes fédérations africaines.
L'élection a lieu aujourd'hui.
L'élection a lieu ce matin. C'était assez houleux, mais finalement, parce qu'il y avait beaucoup de dirigeants de clubs qui s'opposaient à Zetchi. Il faut dire qu'il arrive avec des idées qui ont de quoi déranger, notamment les clubs professionnels, puisqu'il veut créer une direction nationale du contrôle des gestions avec un vrai contrôle des budgets, un plafonnement des salaires, enfin toutes des idées qui ne plaisaient pas au sport professionnel. Lui, il vient du sport amateur. C'est quelqu'un qui préside un petit club qui s'appelle Paradou Athletic Club, qui évolue en division 2. C'est un adepte de la formation du football amateur. Donc, il veut reconstruire le foot algérien à partir de ces bases-là, des bases solides, alors que Raouraoui, on le sait, était plutôt quelqu'un de coup, qui s'est préoccupé assez peu de contrôler les dérives financières au sein de la fédération et qui a laissé faire un peu tout et n'importe quoi au sein de l'équipe nationale. On a vu avec quel résultat, notamment à la CAN et en début d'éliminatoires de Coupe du Monde, l'Algérie est pratiquement exclue de la Coupe du Monde de 2018. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de sélectionneur. Donc il y a un énorme chantier pour Zetchi. Et je pense que c'est une bonne chose que ce changement se produise 4 jours après l'arrivée d'Ahmad à la tête de la CAF.
On en reparle juste après. Gilles.
Oui, là, on a eu en France la primo sortant et en Algérie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le sortant, de sa faute, hein, sans doute beaucoup, mais c'est vu attirer les foudres, je dirais, des amateurs de football algérien qui voient notamment les vicissitudes terribles de l'équipe nationale qui est en déliquescence. C'est trop fort, mais vu les individualités, les talents, c'est pas normal. Donc on lui a attribué, à mon avis justement, la responsabilité de l'échec.
Naïm.
Ouais, je suis complètement d'accord. De toute façon, il aurait dû démissionner, hein, pour moi, dès l'élimination en poule de la CAN, il aurait dû partir en même temps. On l'avait dit quand Rajevac est parti, que c'était pas normal que le président de fédération donne raison aux joueurs comme ça.
Parce que cet intérim Rajevac a été quand même un peu tragique.
Oui, qui est une blague, parce que
qui est arrivé pour deux matchs.
On nous explique que s'il est parti, c'est parce qu'il parlait pas français. Bon, il parlait pas français quand il est arrivé, ça allait pas empêcher les gens de le faire signer. Donc voilà, c'est une bonne chose. Moi, j'espère que le nouveau va s'appuyer sur les jeunes, sur la formation, parce qu'il y a beaucoup de talent en Algérie. On en parle très peu. On parle souvent de la formation dans des clubs comme le TP Mazembe, comme les jeunes au Congo. Mais en Algérie, il y a un super réservoir qui est jamais mis en avant. Il y a de bons binationaux, mais il y a un super réservoir en Algérie qui est jamais mis en avant. J'espère que Zetchi va s'appuyer là-dessus.
Cheikh Gemour, croyez-vous à ce renouveau pour le football algérien?
De toute façon, le football algérien est entre deux eaux, à deux niveaux. Au niveau de l'équipe nationale qui s'est totalement effondrée. Malheureusement, je pense que c'était prévisible. Et le deuxième niveau, c'est-à-dire le championnat qui a été restructuré avec des moyens qui ont été donnés par la fédération et par le gouvernement algérien pour reformater, pour reconstruire un peu les clubs. Et malheureusement, l'exigence de formation n'était pas l'objectif prioritaire des clubs. Pour l'instant, aujourd'hui, j'ai pas fait le bilan, en toute honnêteté. Il y a un mouvement qui s'est amorcé au niveau des clubs avec la restructuration d'un vrai championnat. Aujourd'hui, une fois de plus, j'en connais pas le bilan, mais de toute façon, cet apport de vent frais au sein de la fédération algérienne ne peut être que profitable. Mais par contre, plutôt toujours de ne se focaliser que sur la sélection nationale, comme c'est souvent le cas en Afrique, parce que bon, évidemment, c'est souvent la vitrine et la locomotive du football d'un pays. Il faut surtout savoir où en est aujourd'hui la compétitivité du championnat algérien et la compétitivité aussi de ces clubs, et notamment, est-ce que l'effort de formation qui avait été mis en avant, est-ce que c'est vraiment une réalité ou alors est-ce que c'est un leurre? Et là, il faut vraiment faire un audit, et on espère que le nouveau président va justement effectuer cet audit, mais surtout au niveau des clubs et du championnat de première division algérienne.
Alejandro, vous en parliez tout à l'heure, parmi ces changements à la tête d'institutions footballistiques voilà, qui ont lieu en ce moment, le plus spectaculaire, peut-être l'un des plus spectaculaires a eu lieu il y a quelques jours. On l'a évidemment largement couvert, cet événement, sur RFI. D'ailleurs, Chérif et Gilles, vous étiez là avant l'élection du nouveau président de la CAF. On pensait que c'était assez tranquille pour le Camerounais Sayatou. Surprise, ou en tout cas demi-surprise, Ahmad, le malgache, a pris la place d'Ayatou. Quel regard vous portez sur cet événement, voilà, quelques jours après?
Moi, personnellement, je pense qu'il y a deux facteurs qui expliquent. D'un côté, la soif de changement qui a trouvé un Ahmad, un exutoire propice. Et la deuxième, c'est quand même le changement qui est arrivé il y a un an à la FIFA avec Gianni Infantino qui fait bouger un peu les plaques et qui forcément devait introduire des changements dans une confédération si importante que l'africaine. Donc Infantino, même s'il n'a pas fait campagne ouvertement pour Ahmad, a fait une campagne souterraine très efficace qui a abouti avec la soif du changement qu'on évoquait à cette élection.
Ça, on en parlait mercredi dernier ou jeudi, je me souviens plus, de ce besoin de changement dans tout l'univers du football.
Absolument. Mais pour moi, le rôle d'Infantino est quand même limite. Hein. Je l'avais dit avant, c'est pas de l'ingérence, mais lui qui dénonce à chaque fois l'ingérence du politique dans le sportif, là, c'est très limite. Il s'est presque impliqué personnellement dans l'élection. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est le chef qui l'avait dit la semaine dernière, Ayatou avait été son opposant. Et surtout, de mon point de vue, avec la nouvelle Coupe du Monde qui se profile, avec le rôle accru du nombre de sélections africaines et la redistribution effectivement du football, sa mondialisation, il a besoin de gens fidèles, il a besoin de gens à lui, il a besoin de gens sur lesquels il pourra s'appuyer et qu'il contrôlera. Là maintenant, il
ça
est content.
Ça fait très blatter ce que vous nous
mais c'est ce que je déplore, je vous le disais avant.
Mais Infantino devra être réélu aussi, donc il lui faut également des électeurs.
Et oui, mais bon, voilà, la nouvelle FIFA transparente qu'on nous promettait, je suis pas sûr qu'Infantino soit un monstre de transparence.
Ça, c'est dur, ce que dit Gilles Naïm, vous abondez dans son sens.
Bah, à ce niveau-là, de toute façon, c'est de la politique, donc Alejandro a raison, on est obligé d'avoir des soutiens un peu partout. Ça me paraît efficace, ça pourrait dire que c'est de l'ingérence. Ayatou avait surtout fait campagne pour Salman, c'est ça. Donc il y a peut-être une petite vengeance personnelle, mais
moi je pense au moment de l'élection.
Infantino a quand même le mérite de ramener le football au cœur de la FIFA. Voilà. Est-ce que l'arrivée d'Ahmad en Afrique va faire de même? Parce qu'on comme Ayatou, c'est quand même l'étendard des histoires de primes, des histoires de corruption et compagnie. Si Ahmad déjà peut remettre de l'ordre là-dedans, ce serait une bonne chose.
Chérif. Quel est votre regard sur ce vent nouveau qui souffle sur les institutions footballistiques et sur la CAF en particulier?
Non, mais pour la CAF en particulier, j'avais dit que je pensais que Ayatou serait sans doute maintenu parce que les soubresauts des affaires de la FIFA n'avaient pas encore touché le continent africain. C'est-à-dire que ça avait touché essentiellement l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. En gros, au niveau des, comment ça s'appelle, de la justice, des inculpés, puis des toutes les affaires. Et en fait, les scandales de la FIFA ont commencé à toucher de façon souterraine l'organisation de la FIFA, donc avec sans doute des scandales ou des affaires à venir, parce qu'il va sûrement y en avoir. C'est chaque continent, c'est chacun son tour. Donc voilà, c'était peut-être les plaques avaient déjà commencé à se mouvoir de façon souterraine. Peut-être donc avec à l'arrivée l'éjection de Ayatou.
Le mot de la fin, l'un d'entre vous, allez, rendez-vous.
En tout cas, on va découvrir Hamad, qui a un profil qui rappelle un peu Alexandre Seferin en Europe. C'était, il vient d'une petite fédération. Il a été un peu poussé par les anglophones, mais lui-même, il est francophone. Donc, il y a une forme d'intelligence dans tout ça. On voit mal comment Hamad pourrait devenir un homme fort à la manière d'Issa Ayatou. Et c'est un peu ce que cherchait Infantino. Il veut pas des chefs des confédérations puissants. Et là, en l'occurrence, il est servi.
Sauf qu'on sait, la question, c'est de savoir si c'est pour son intérêt ou pour l'intérêt du football. Mais ça, on aura l'occasion d'en.
Non, mais on apprend vite. Et
c'est une question un peu compliquée là.
Il est vite devenu politique, Infantino, quand même. Hein.
Oui, il l'a toujours été. Hein, oui, ceci dit, hein, c'est le grand public qui l'a découvert. Merci, Gilles Verdez, Chérif Guémour, Alejandro Valente, Naïm Moniol. Radio Foot revient demain. Christophe Jousset sera là-bas cette semaine. Avant, vous inquiétez pas, le retour de la dame, elle finira bien par revenir ici à Paris. Merci, Guillaume Ploquin, et à demain sur RFI.
Parlez-vous Paris ?